Oui, bonjour Daniel, c'est Elodie, j'appelle puisque je viens juste d'écouter l'émission Tire ta langue et donc j'ai tout de suite réagi bien que je suis prof hein, puisque en fait c'est absolument génial d'entendre des jeunes filles utiliser le verbe victimer que Balzac utilisait. C'est en effet un néologisme qui veut dire rendre victime, et dans le Père Goriot il figure donc, mais je m'adresserai aux chambres si les tribunaux nous victimaient. C'est le Père Goriot qui s'adresse à sa fille. Donc voilà, ces deux jeunes filles font du Balzac, parlent comme Balzac sans le savoir. C'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. Et qu'elle continue. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Didier de Guadeloupe. Je t'appelle à propos de ton émission sur le langage des jeunes de banlieue. En tant que linguiste, j'aimerais développer le sujet, mais pour faire simple, je citerai simplement Goethe. Goethe a écrit « L'âme d'un peuple est vivante dans sa langue ». Alors, c'est ainsi que ces jeunes, inconsciemment, cherchent leur âme, ce qui me semble bien naturel et dans l'ordre, disons, bien humain des choses. Il n'y a pas lieu de s'en offusquer. Ça me semble au contraire une preuve de dynamisme, de vie, et sans doute aussi d'espoir. Salut.
Salut Mermet, salut toute l'équipe de la Bossy Suisse et Fred de Breno. Oui, ben là, je viens d'écouter l'émission donc sur ces jeunes du Val-Fouré. Bah oui, ça me fait penser à l'époque où je bossais au collège des Iris à Villeurbanne, en ZEP et tout ça, que je m'étais engueulé un peu avec quelques enseignants qui expliquaient que, oh là là, t'as vu leur langage, comme c'est grossier, vulgaire, en plus ils savent pas parler le français comme il faut, etc. Faut dire que leur langage, quand ils s'expriment comme ça, en fait, ça exprime une seule chose, c'est qu'ils vivent dans un univers violent. Ça s'entend quand ils parlent, ça s'entend dans le rap aussi. Le nombre de concerts rap qu'on a organisés dans les MJC autour de Lyon, c'était terrible quoi de voir ça. Mais en fait, ça s'appelle l'exclusion, tout ça. Et ces gamins parlent comme ça, avec leur vocabulaire à eux, parce que la culture ne va pas dans ces endroits-là. Et ça, on est les premiers à le déplorer. Nous, quand on allait jouer dans ces coins-là, on déplorait le fait que tout le secteur culturel, avec un grand C, ne vienne jamais dans ces lieux-là. Donc, voilà. Donc, c'est un symbole, c'est le témoignage de l'exclusion. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça s'entend. Ça s'entend. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Au lieu de constater que, ils parlent violemment, ils disent des gros mots. Non, mais ils ont grandi comme ça, là-dedans. Allez, à bientôt. Ciao.
Salut, c'est Soraya. Je viens d'entendre l'émission de là-bas si j'y suis. Et c'est bien de dire qu'on a toujours une image négative des banlieues, des gamins issus de l'immigration. N'empêche que, une fois de plus, c'est pas forcément une image très positive qu'on donne. Alors, ce qui serait bien, c'est que si on part du principe qu'on donne une autre image que celle qu'on a l'habitude de voir, c'est d'aller voir aussi des gens qui sont issus de l'immigration et qui s'en sortent pas trop mal et qui arrivent déjà à s'exprimer correctement. Parce que oui, d'accord, il y a d'autres langages qui se créent, se font et se défont dans les banlieues et ailleurs, mais on peut aussi aller voir des gens qui s'expriment bien, qui donnent une vision un peu plus positive de ce que peuvent être les enfants de l'immigration. Voilà, c'est Soraya, issue de l'immigration algérienne. Et pour moi, ça va, j'ai réussi, j'arrive à m'exprimer correctement en français et je suis même enseignante. Merci pour toutes ces émissions, super, mais attention à l'insécurité. Ciao.
Pétain a donné la France avec l'aide d'un gouvernement de vendus. Chirac, lui, il brade la France avec un gouvernement de vendeurs. Salut.
Auditeur, auditrice, j'ai fait le don de mon assiduité radiophonique à France Inter. Du temps de Radio Paris, il y avait peut-être un peu de propagande, mais néanmoins, il n'y avait pas toute cette publicité. Je demanderai donc à M. Mermet de nous communiquer les coordonnées de cette association qui milite contre la réclame. Voilà, parce que ce pharmacien qui tousse, j'ai bien envie d'aller lui casser la gueule. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. C'était Philippe de Vichy.
Philippe, je ne sais pas si cette association existe vraiment. C'était en l'air, je crois, cette idée d'un auditeur. Mais en tout cas, vous êtes très très nombreux à râler et à grogner, comme on dit, contre l'excès, selon vous, selon une partie d'entre vous, de pubs sur Inter, évidemment. Personnellement, je suis de votre côté. Ne le répétez pas. Bon. Alors, aujourd'hui, où on va? On va au marché Saint-Pierre. Et ça, c'est un grand classique de là-bas, si j'y suis. C'est, on va réviser nos classiques aujourd'hui, c'est Monsieur Paul, l'ingle de Meilon. Et ça, c'est un petit gimmick de là-bas, si j'y suis. Vous allez voir de quoi je parle si vous connaissez pas encore Monsieur Paul. Mais auparavant, plus sérieusement, je voudrais vous parler d'un incident dont j'ai été témoin hier et qui s'est produit au Palais de Justice à Paris, à la 17e chambre, hier le 30 septembre. C'est un incident symptomatique du climat malsain, délétère, haineux, qui se développe en France en répercussion au conflit du Proche-Orient, et ceci, comme vous le savez, depuis en gros 3 ans. Rien n'arrête le délire des inconditionnels d'Israël. Cette fois-ci, c'est plus seulement les intellos médiatiques qui dérapent et sèment la terreur. C'est une bande de malfrats organisés. Je vous raconte. Hier, dans cette 17e chambre, à Paris, au Palais de Justice, donc, on jugeait un certain Alexandre Attali, 29 ans, ex-webmaster d'un site pro-israélien, amisraelhaï.org, qui, pendant des mois, a déversé une diarrhée ininterrompue d'insultes racistes, violentes et imbéciles. On le sait, Internet est souvent un égout fangeux, et c'est un boulevard pour les racistes de tout poil. Mais amisraelhaï.org a poussé le bouchon plus loin pour soutenir Israël et la politique du général Sharon. Ces jeunes gens, français et israéliens, sont allés jusqu'à diffuser, en juin 2002, une liste de personnalités signalées comme juives, selon eux, en incitant à boycotter, je cite, ces vermines, et je cite encore, en leur balançant un bon coup de batte de baseball dans la mâchoire. Alors, il y avait une liste de 150 personnalités, parmi lesquelles on pouvait voir les noms de Mathieu Kassovitz, Marin Karmitz, Mireille Mendès-France, Gisèle Halimi et beaucoup d'autres. Et puis, des noms comme celui de Madame Eva Tischauer, 85 ans, rescapée d'Auschwitz, ou bien Stanislas Tomkiewicz, qui est décédé depuis et qui était lui aussi un survivant des camps. Bref, 150 personnes, Marcel Franciscan par exemple, ou Ronnie Broman, chaque nom était marqué d'une étoile de David. Alors, après 8 heures d'audience hier au Palais de Justice, le parquet a demandé une peine de prison de 6 mois. Le jugement sera rendu le 4 novembre. Et au cours de l'audience, en suivant patiemment cette audience, on pouvait se dire, bon bah après tout ça c'est virtuel, c'est des mots sur un écran, sur un site internet qui est fermé depuis, qui a été consulté au total, d'après ce qu'on nous dit, par 85 000 personnes, tout ça reste symbolique, virtuel, dangereux certes, soyons vigilants. Sauf que hier, eh bien, on est passé du virtuel au réel, en pleine audience, des témoins et des parties civiles, dont les noms figurent sur cette fameuse liste, ont été pris à partie et insultés par une bande organisée venue soutenir l'accusé. Par exemple, Ronny Broman a été traité de capot, Broman Eichmann, Olivia Zemmour, présidente de la coordination pour la paix juste au Proche-Orient, a été insultée, Michel Warshavsky, le journaliste israélien, a été traité de capot, de sale juif. Auschwitz, c'est pas fini, a-t-on entendu dans le hall du palais de justice à Paris. Alors l'audience a été interrompue, le tribunal a enregistré les témoignages et une enquête, n'en doutons pas, va être ouverte. Alors vous vous dites, quelle est cette bande? Eh bien, cette bande, ce sont les nervis de la LDJ. La LDJ, c'est la Ligue de Défense Juive. C'est une organisation ouvertement raciste et violente, qui revendique le racisme et la violence. C'est une ligue qui est interdite en Israël, qui est interdite aux États-Unis, mais qui est toujours autorisée en France et qui multiplie les violences et les agressions. Alors il est à noter, c'est important, qu'une association qui s'appelle J'accuse, une association pro-israélienne, s'est exprimée contre ce genre d'action, contre le site en question, et aussi contre ce genre d'action. Voilà, je pense que c'était important que vous soyez informés de ce qui s'est passé hier à Paris, au palais de justice. Donc aujourd'hui, on reste à Paris, mais on va se balader dans des lieux un petit peu plus fréquentables, en compagnie de Monsieur Paul. Et auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassigie suisse, 01 56 40 37 37.
C'est un petit message que je passais à Monsieur Daniel Mermet. Jusqu'à présent, je détestais ces émissions que je trouvais presque des appels à l'anarchie et la révolution. Mais les émissions de ces derniers jours, je le rejoins totalement. L'euthanasie est un sujet extrêmement douloureux, mais dont les décisions sont très difficiles à prendre, car par la suite, ça peut entraîner et engendrer des dérives. Au revoir.
Je voulais dire par rapport à l'euthanasie que je suis un peu bouleversé par tout ce qui se dit. Ça s'est produit dans ma vie il y a 2 ans. Et c'est vrai que j'ai envie de parler de la lâcheté de ces politiques quand on les voit, de l'influence de ces cathos qui pèsent encore très lourd, des médecins qui se prennent pour Dieu et qui décident du moment, parce que eux le font, où ils donnent, ils peuvent autoriser à donner la mort, alors qu'en fait, d'appuyer sur la seringue et de donner la dose de morphine, c'est au contraire une grande preuve d'amour et ça reste un très très beau souvenir. Voilà, je veux vous dire ça. Au revoir.
Salut Daniel, je voudrais dédier ce poème à Monsieur le Baron et à toute son équipe. Ça s'appelle « Les pauvres ». Les pauvres sont charmants pour peu qu'on les approche. La plupart sont polis, j'en ai vu de tout près. Bien sûr, j'avais un peu de monnaie dans ma poche, mais ils n'en savaient rien. Je n'ai donné qu'après. Les pauvres sont curieux. Le travail les attire, y compris les métiers fort sales et rebutants. Je crois qu'ils ont raison. L'oisiveté, c'est pire. Ils se plaignent, c'est vrai, mais ils sont très contents. Au fond, la pauvreté, c'est un genre qu'ils se donnent. La preuve, j'en ai vu sourire à pleines dents. Pour nommer leur épouse, ils disent la patronne. Pour tout dire en un mot, les pauvres sont tordants. Quelques-uns sont fort laids, à force d'être sales, et leurs têtes ressemblent aux têtes d'ouvriers qui, ceux-là, sont affreux, n'aimant que le scandale, prêts à n'importe quoi pour être mieux payés. Mon Dieu, ceux-là, bien sûr, sont de fort mauvais pauvres, ils sont mal éduqués, ils se battent entre eux. Lorsque j'en aperçois, je prends peur. Je me sauve. Qu'ils soient dans la misère, ces monstres-là, tant mieux. Mes pauvres à moi sont doux, sont souriants, sont timides. Ils se vantent bien haut d'aimer notre Seigneur. Certes, beaucoup d'entre eux sont à moitié stupides, mais ils n'y sont pour rien. C'est presque mieux d'ailleurs. Leurs enfants, quelquefois, ont de beaux yeux si tendres qu'on peut émerveiller avec n'importe quoi. J'ai souvent regretté qu'ils ne soient pas à vendre. J'en aurais acheté pour les mettre chez moi. Bernard Dimet, les poèmes voyous. Allez les gars, il serait peut-être temps de se lever et de bouger. Salut à tous, Philippe du Loiret. Ciao.
Je vous appelle parce que je trouve sur les antennes, en ce moment, on parle de croissance. Et je me dis qu'il y a peut-être que sur la Bassigie suisse qu'on pourrait entendre que notre monde, il va crever si on continue à faire de la croissance. Et que il faudrait peut-être, au contraire, parler de décroissance. Alors, je voudrais signaler qu'il y a un colloque sur le thème de la décroissance soutenable ce week-end à la mairie de Lyon. Il n'y a plus de place, c'est déjà complet. Mais au moins que dans une émission sur une radio comme France Inter, on parle de la décroissance et on dise que c'est ça la solution pour notre planète et pas la croissance, même de 3%. Voilà, merci, au revoir.
Une information là qui concerne la région de la Loire, mercredi 1er octobre, il y a la projection du film Le Bien Commun, qui est un film incontournable si on veut comprendre un petit peu ce qu'est la GCS et tout ce qui se trame autour de l'OMC, voilà. Donc c'est un film qui va être projeté à la salle Saint-Jean de Pélussin à 20h30, voilà, il y aura également des intervenants à la fin du film pour à qui on pourra poser toutes les questions et en savoir plus, et puis évidemment un pot attend tout le monde avec les crus locaux évidemment et tous les produits. Voilà, merci à tous et continuez, bye bye.
Il y a l'ascenseur qui klaxonne.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Anne Rioux. Là-bas, si j'y suis, avec Monsieur Paul.
Flight number 2. Arriving.
On laisse descendre.
Ah oui, d'accord.
Merci.
Et après, vous descendez au troisième.
On va y arriver.
Qu'est-ce qui dirait Monsieur Paul? Quelle question il poserait au président de la République, Monsieur Paul? Est-ce qu'il demanderait du plâtre contre la fracture sociale, de la flexibilité dans le sida, de la jeunesse pour les vieux ou du rap de foie gras? Non. Ce qu'il demanderait, c'est de l'amour. Dans ses petits souliers. Oh, l'amour. Pas l'amour, cul, capote, nique ta mère et poil au tour. Non! Du vrai. Du Venise. Du violon. Du pigeon. Du lagon. Des que tu m'étais destiné avec des couchers de soleil dans le fond. Des que tu te sens comme un ver de terre à côté d'une étoile. Des comme sur tes images de communion avec le cœur qui gonfle, qui moule, comme de la rosée. Pourquoi jamais moi? Pourquoi jamais vous? Pourquoi j'aurais pas le droit un jour, seulement une heure? Et ça, même si j'étais la reine d'un jour, le chef de la France pourrait pas l'exaucer, mon vœu. Parce que il y a des limites à la perfection du bonheur. N'empêche qu'un jour, ma princesse viendra par l'ascenseur. Entre le premier et le quatrième. Assomption. Où ça? Au marché Saint-Pierre. Saint-Pierre. Avec ses clés du paradis. Par l'ascenseur, elle arrivera. Et on dépassera le quatrième. On crèvera le plafond jusqu'au septième ciel. Et ça, vous allez voir. Aucun monarque républicain ne peut vous l'offrir.
Trop sentimental, la vie actuelle, la société actuelle ne comprend pas ce genre de choses. On comprend simplement de l'acte sexuel et tout ça, mais l'acte sexuel, s'il n'y a rien derrière, c'est inutile de le faire.
Une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait. Le soir, Rossignol de mes amours, monde que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être.
Veuillez entrer, madame.
Bonjour.
Bon, ben, Pensateur ?
Oui.
On appelle, là ?
On va loin ?
Le 3, là. Oh, on pourrait même aller au 4, parce qu'on m'appelle sur le 4, puis on descendra après. Quatrième étage. Blanc. Linge de maison.
Je descends. Merci, madame.
Ah, vous savez, vous pouvez on laisse descendre, madame, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez rappeler l'ascenseur, même pour descendre un étage, je vous le dirai. Allez-y. Allez-y, allez-y.
Oh oui, depuis des années où je viens, je connais bien monsieur.
Est-ce que vous savez comment il s'appelle ?
Ah non, non,
je ne sais pas. Paul,
Ah, monsieur Paul.
Hein ? Monsieur Paul.
Bon, c'est le rez-de-chaussée, monsieur.
Oui.
Bon, toujours très aimable. Merci.
À votre service, madame.
Merci.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Premier ménage, deuxième soir, il va lourd. Personne, premier, deuxième. Personne, premier, deuxième, là. Quatrième étage, blanc, linge de maison. On va descendre sur le côté.
Comment on descend ?
Laisse descendre, madame.
Ah oui, ben je le sais.
Allez, hein. Madame.
Il n'est pas commode, hein ?
Non ? Je vous dis,
bonjour. Bonjour.
Troisième étage, tissu. D'ameublement, voilà. Allons-y, madame.
Voilà,
je vous redonne. Premier étage. Personne pour la porte par premier.
Alors, comment ça se fait, là? Il n'y avait personne?
Ah oui, ils appellent, ils n'ont pas la patience d'attendre.
C'est un peu long, des fois, non?
Ben oui, il faut attendre partout, madame. Prenez le bus, prenez le métro, le train. Il faut attendre. C'est vrai, hein. Vous allez à la poste. Faut attendre également.
Des hauts et des bas depuis 20 ans. 20 ans que Monsieur Paul est dans cet ascenseur et le liftier de ce magasin fameux à Paris qui s'appelle le marché Saint-Pierre au pied de la butte Montmartre. Depuis 20 ans, à chaque fois qu'on prend cet ascenseur, on se dit, un jour, ce gars-là sera remplacé par un bouton. Eh ben non. Ça fait 20 ans qu'il tient bon dans son ascenseur. Et une devinette, quand on était petit, on disait, qu'est-ce qui est petit, rond et vert, qui monte et qui descend? Et la réponse était, c'est un petit poids dans un ascenseur. Ça pourrait être Monsieur Paul, mais c'est pas tout à fait Monsieur Paul non plus, parce que dans son ascenseur, du premier au quatrième étage, depuis 20 ans, au marché Saint-Pierre à Paris, Monsieur Paul vit et rêve aussi.
Comment s'appelle votre métier ?
Liftier.
Liftier ?
Oui, ça vient de l'anglais lift.
Qui veut dire ?
Monter, descendre.
Garçon
d'ascenseur, quoi.
Comment ?
Ou, entre parenthèses, garçon d'ascenseur. Cinq.
Yeah. Et il faut un uniforme pour faire ce métier ?
Oui, mais enfin, pas ici. Pas ici.
Et vous, alors comment vous habillez-vous ?
Normalement. Premier
étage, Lénage. 19 ans que vous faites rez-de-chaussée, quatrième étage.
Je suis rentré dans ma 20e année.
Eh oui, j'ai commencé, j'avais 23 ans, je vais en avoir 43.
On est de quel âge, s'il vous plaît ?
Troisième.
Merci.
Troisième. Un parapluie a été trouvé au quatrième étage. Prière de le récupérer.
On se croirait dans un aéroport ?
Ben oui.
Pardon. C'est facile de faire le même métier pendant 19-20 ans et de répéter toujours les mêmes choses ?
Faut prendre une habitude. Et une habitude se prend dans la mesure qu'on aime ce qu'on fait.
Mais c'est contraignant quand même comme travail.
À quel niveau ?
Ben, je sais pas, je me mets à votre place. Là, je reste avec vous, ça fait un bon moment que je suis avec vous dans l'ascenseur. Alors vous ne sortez pas pendant plusieurs heures et puis hop, montez, descendre, ouais. On vous sonne. Vous
c'est ni plus ni moins qu'un conducteur de métro. Hein.
Vous auriez aimé être conducteur de métro ?
Oui, j'avais même essayé de vouloir rentrer, mais il faut un niveau très haut. Hein.
Un niveau de quoi ?
Ben, il faut un bac technique, hein, pratiquement.
Et vous ne l'avez pas, c'est non. Ça ? Oui.
Allez, quatrième.
Quatrième ?
Oui.
D'accord, pardon.
Bonne cliente, là, direct.
Non. C'est... Je vais vous dire franchement, c'est comme mon travail là. J'aime beaucoup dans le travail la liberté. Vous voyez ce que je veux vous dire ?
Oui, mais enfin, et à la fois, vous êtes entre 0 et 4 étages en permanence.
Oui, mais je suis très libre dans mon travail. Troisième étage, je suis d'ameublement, voilà. C'est pour le rez-de-chaussée ? Vous voyez, ne pas être contraint à certaines choses. Qu'on vous impose pas quelque chose, vous faites votre travail, c'est terminé. Oui. Deuxième étage, soit vive l'heure, madame. La liberté du travail, la liberté dans le travail, que vous n'avez jamais personne derrière, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais c'est paradoxal, parce qu'à la fois vous parlez de liberté, et à la fois on peut considérer que vous êtes dans une cage, que vous êtes sur des rails toute la journée.
Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, un conducteur de train, un conducteur de métro, ils sont toujours enfermés, ils n'ont pratiquement pas de sortie. Hein.
Mais ça vous plaît ?
Ben oui, c'est pas déplaisant, la preuve, me plaît bien moi ici. Je quitterai pour rien au monde ma place.
Hein. Ah. Et combien d'années avant la retraite ?
J'ai 43 ans, je vais avoir 43 ans, alors faites le calcul. Un peu 17-18 ans encore.
Ah oui, encore ?
Ça c'est oui, allez-y madame. Dernier regard. Vous arrêtez au rez-de-chaussée ?
Qu'est-ce que c'est ce truc ?
C'est la sonnerie.
Ça ?
Oui. Vous arrêtez au rez-de-chaussée après ?
Pour sortir, oui.
Oui, oui.
Pourquoi vous allez déjeuner ?
Ah oui, là, je vais déjeuner.
L'ascenseur est vide.
Ah oui, mais il recommencera à 14h30 maintenant.
Mais comment on fait sans vous ?
Quatrième étage,
Par l'escalier.
Merci vous de même.
Ah oui, on vous remplace pas ?
Alors, je suis remplaçable.
Comment ?
Je suis irremplaçable. Non, faut pas dire ça, j'ai ça en plaisantant. Hein. Bon, je vous arrêterai de chausser.
Dis-moi, je vous en prie, j'ai mal à la jambe, monsieur.
Permis,
soyez gentil, une seconde, juste au troisième, là.
C'est 14h30, madame.
Oh, monsieur, vous voulez pas faire une petite exception, non, une femme malade ?
14h30, madame.
Bon, mais laissez-moi monter au troisième, au moins. C'est pas possible, ils sont peu aimables.
Non, mais là, c'est...
Non.
Monsieur. Le service est interrompu, mesdames. Le service de l'ascenseur est interrompu, mesdames. Pas pour l'instant. Un petit quart d'heure.
Alors voilà. Alors voilà, vous pourriez croire, comme Andrew, que Monsieur Paul vit dans une cage, sur des rails, entre le premier et le quatrième étage. Il n'y a pas cinq étages, il y a quatre étages. Soirée velours, blanc linge de maison, etc. Selon les étages, là j'en ai déjà repéré deux, mais il y en a quatre. On va découvrir les autres étages, très importants. Et, ben, vous avez vu, Monsieur Paul se considère comme tout à fait irremplaçable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas dire ça aujourd'hui, ni ce que Monsieur Paul a encore à nous dire.
Oui, et donc avant de venir travailler, vous venez ici dans ce bistrot ?
Oui, oui.
Combien de temps ?
Une demi-heure.
Une demi-heure ?
Un quart d'heure, une demi-heure, oui, je prends un café, puis je vais travailler après.
Et vous retrouvez des amis ?
Oh non. Ça dépend, des fois.
Et vous venez de loin ?
D'Aumont. Val d'Oise.
Et vous mettez combien de temps pour venir travailler ?
Entre 1h et 1h30.
Ouais. Mais ça ne vous gêne pas trop ?
Pas du tout. D'ailleurs, j'habitais Paris 20e avant et j'ai déménagé parce que je ne me plaisais pas. J'aimais mieux la banlieue. Quand on travaille et qu'on habite Paris, on se sent toujours sur son lieu de travail. La communication. Et donc, moi, j'aime bien communiquer, j'aime bien... Comme Paris, c'est chacun pour soi. À vrai dire, je suis trop nerveux, je suis trop dépressif. Enfin, non pas dépressif, mais trop nerveux pour habiter Paris. Comme je vous ai dit, on peut pas communiquer, on n'arrive pas à communiquer. Et moi, pour moi, ça me rendrait très dépressif. D'ailleurs, il y a une très jolie chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était chantée par Michel Sardou, « Les villes de grande solitude ».
Vous savez la chanter, non ?
Dans les villes de grande solitude, moi le passant bien protégé, par 2000 ans d'incertitude, et les venins...
Je ne la connais pas tellement. Hein.
Vous chantez souvent ?
Je chante depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours aimé chanter. Et j'ai jamais pu arriver à décrocher le petit trou pour rentrer. Vous voyez ?
Ah, pour rentrer dans le showbiz ?
Oui, pour le showbiz.
Mais tout à l'heure, enfin, vos collègues parlaient de futur mariage. C'est comme vous êtes célibataire, c'est bien ça ?
Oui, je suis célibataire.
Et vous n'avez pas d'enfant ?
Malheureusement, non.
Donc c'était quoi cette histoire ?
Ouais, mais la mise en boîte, quoi. Mais bon, bah si je trouverais, j'y pense. Que... À 43 ans bientôt, hein, il serait peut-être temps que j'y pense. Hein.
43 ans, vous vous fixez quel âge pour vous marier ?
Maintenant, je vais faire le plus rapidement possible, parce que je suis tout seul. Mes parents sont décédés. Ma mère est décédée depuis 4 ans. Et ça commence à bouillir. Hein. Surtout tout seul, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. J'ai fils unique. Mon père est décédé, j'avais 12 ans. Alors vous voyez, ça remonte à... Alors vous savez que quand on se retrouve comme ça, je pense qu'on a besoin d'être positif et de créer quelque chose.
Et avant le décès de votre mère, vous viviez avec elle ?
Oui. Il y a deux choses plus importantes dans ma vie de famille et mon travail. Le reste, j'en ai rien à faire.
Et vous avez des critères d'épouse, justement ?
Gentillesse, sensibilité, douceur, romantisme. Comprendre les gens tels qu'ils sont.
Et physiquement, vous avez des critères également ?
Oui, enfin, pas trop grande, vu ma taille, pas trop forte, enfin, pas trop forte, normale. Les brunes, j'aime beaucoup les brunes. Ah oui.
Vous dites pas trop grand, c'est pas trop grande, ce serait quelle taille maximum ?
1m50, 1m60, entre 1m50 et 1m60.
Et les yeux de quelle couleur ?
Marron.
Vous acceptez les divorcés ?
Oui. Et femmes avec enfants également. Naturellement, suivant le sérieux de la personne.
C'est quoi pour vous une femme pas sérieuse ?
Une femme facile. Femme facile, femme légère. Mais femme légère, je tiens encore à reprendre ceci. On dit légère ? Non. C'est pas la légèreté qu'elle accuse. C'est justement le manque de compréhension qui la rend comme ceci.
Oui.
Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ouais, pour moi, c'est la nostalgie. La nostalgie est le fait de quand on a une personne, qu'on aime vraiment une personne.
Et vous, vous croyez que le bonheur n'existe pas?
Je me le demande des fois. Je vous pose la question.
On va travailler?
Oui, là maintenant.
Non, non, c'est pas la peine de nous écrire. Si vous êtes touché par, en somme, ce qui est une petite annonce, ce que vient de dire Monsieur Paul, voilà, c'est clair. Il faut que vous soyez une femme gentille, sensible, douce, romantique, pas trop grande. Vous allez comprendre pourquoi. Pas plus d'un mètre cinquante, ce serait bien. Pas trop enveloppée. Brune, bon, ben ça, on peut toujours s'arranger. C'est un bon, hein. Voilà. Et alors c'est pas la peine de nous écrire qu'on fasse suivre le courrier. Vous allez au marché Saint-Pierre à Paris, le magasin qui s'appelle le marché Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre, et vous allez tout droit sur l'ascenseur. Et là vous tombez sur Monsieur Paul. Entre le premier et le quatrième étage, vous aurez tout le temps qu'il faut pour voir si ça vous convient, si l'homme vous convient, s'il y a et plus. Si affinité.
Bon, ben, il est comme tout le monde, hein. C'est un être humain. On le voit, petit personnage, qui a quand même une certaine. Il n'est pas d'un tout petit niveau, hein. Il a une certaine culture. Il se voit bien comme tout le monde. C'est nous qui faisons la différence. Voilà. Lui, il ne fait pas la. Il fait pas la différence.
Pourquoi il n'est pas comme tout le monde?
Il est comme tout le monde. Bon, je suis une personne de petite taille. C'est une personne de petite taille. Mais voilà. Après tout, si je me mets à côté de Paul, je suis pas plus haute que lui. Et puis bon, il n'y a pas de problème. C'est les autres qui font la différence. Comme dans tout, hein. Dès qu'on voit une différence, c'est pas la personne qui est différente, c'est toujours le regard en face qui vous fait ressentir la différence.
Il me disait qu'il pensait vraiment sérieusement à se marier maintenant, vite.
Ouais, moi je veux dire, ça fait 8 ans que je connais, et ça fait 8 ans qu'il pense sérieusement à se marier, alors vite, bien sûr, vite. Maintenant, au bout de ce temps, vite, bien sûr.
C'est un grand romantique en fait.
Oui, insensible, sentimental. Ouais. Il peut s'attacher très vite, très très vite. Il a dans sa tête plein de rêves bleus. Il est très. Ce serait une fille, elle serait très fleur bleue. Il est très fleur bleue. Lorsque les gens sortent de l'ascenseur, il les entend, hein, les critiques. Il dit rien, mais il dit à ces personnes-là : vous pouvez rappeler l'ascenseur, même pour descendre d'un étage. Vous allez voir. Et quand ces gens-là reviennent à l'ascenseur, effectivement, pour redescendre, ils ne viennent pas.
C'est de bonne guerre.
Tout à fait. Et un jour, je lui avais dit, ben Paul, t'exagères. Alors, il avait ri.
Quatrième étage, blanc, linge de maison. Descendre tout le côté.
J'ai tombé de 2 marches. J'avais glissé sous une grille non encastrée. J'ai eu la tête à portée. J'ai eu un traumatisme crânien. Ensuite, j'ai continué ma vie 4 ans. Au bout de 4 ans, mon père est décédé. Mais après, j'étais à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. J'ai été 6 mois à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et j'ai été 2 ans et demi à l'hôpital à l'Institut Callot de Berck-Plage. Sur cet 2 ans et demi, j'ai été 1 an et demi allongé, position allongée. Donc 6 mois en extension continue. Avec des poids à la tête, attachés aux hanches, avec des choses pour m'étendre. Et après, on m'a opéré, on m'a fait 2 opérations. On m'a enlevé des crêpes ciliaques du devant de la jambe pour me les greffer dans le dos. Ça a été fait en 2 opérations à 1 mois ou 2 de différence. Et à la suite de ceci, je suis resté 6 mois allongé encore avec un plâtre. Et après, j'ai été relevé. J'avais un pied qui s'en allait en équin, j'avais des problèmes de marche. Ça en allait sur le côté, et c'est le côté que j'avais eu un hémiplégie suite à mon accident lorsque j'avais 8 ans. Et après, ça a été excusez-moi de l'expression, ça a été la galère pour chercher du travail. Vous voyez? J'avais 17-18 ans.
Ces hôpitaux et ces placements, ça représente combien d'années de votre vie?
Oh, ça me représente, attendez, ça va être à peu près 6 ans. Alors, vous voyez, quand on dit que, pourquoi que je suis sentimentale, pourquoi que je recherche certains contacts féminins, c'est pour oublier toute cette, cette partie de ma vie. Et maintenant, j'ai 42 ans, bon, bah, je vis. Ça, il n'est pas incompatible que je vis, mais je vis très mal. Je vis très mal, d'autant plus que ma mère est décédée depuis 4 ans. Et là, ça a été pour moi la descente aux enfers. Hein. Faut toujours se dire qu'il y a pire que soi. Moi, je me trouve tel que, vous voyez. Je me dis pas le super intelligent, le gars qui casse tout. Là, je me trouve tel que. Mais par contre, j'essaie de comprendre les autres.
Mais vous croyez que les autres cherchent à vous comprendre?
Non. Les autres ne comprennent pas, mais moi, j'essaie d'aller vers les autres. Homme sincère recherche femme équivalent pour amour prolongé et plus si affinité.
Bah, au-delà de l'amour, qu'est-ce qu'il y a?
Le mariage, madame.
Voilà, c'est clair. Hein? Alors, si vous vous sentez concerné, je vous le répète, vous allez au marché Saint-Pierre, au pied de la butte, et vous rencontrerez Monsieur Paul, 1m50, et oui, il faut le dire, des cheveux, pas beaucoup, mais des cheveux, une moustache à la D'Artagnan, quand même, hein, si vous aimez les moustaches, sinon si vous insistez beaucoup, si vous n'êtes pas très cliente au niveau moustache, eh ben... Il découpera, je pense, là, pouvoir s'arranger avec Monsieur Paul. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même ouvert. Et alors, au point de vue linge de maison, voilerie, soierie, enfin tout ce qui concerne le tissu, alors là, on peut dire, eh oui, que Monsieur Paul en connaît un rayon.
« 14h30. Alors ça y est, on recommence le service ?»«
On recommence. »«
Allez-y. »«
Alors,
Allons-y. »«
Même plus que 14h30. »« Ah oui, vous voyez, il y a du monde. »«
Entrez, madame. »
Madame Baptista est attendue à la caisse du 4e étage pour un objet lui appartenant. »
Attention, mesdames, s'il vous plaît. Cet ascenseur dessert les étages 3e, 2e en descente. Prochain étage desservi, 4e. Il n'y en a pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Ah! Aïe, madame!
On vous a appelé!
Ah oui, mais
plus vite!
Attention, hein! C'est comme dans le métro aux heures de pointe, les jours de grève, là!
Oh, puis ça couine, la porte, hein!
Ouais.
Absolument merveilleux! C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'ascenseur. Ah, pour monsieur
oui.
Paul?
Oui.
On prend l'ascenseur exprès pour l'entendre.
C'est un personnage extraordinaire qui rappelle.
Le temps passé.
Voilà.
Oui. Le temps passé?
Oui.
Allez,
oui, il n'y a plus, ça n'existe plus, ça. On allait dans les grands magasins, il y avait ça se passait comme ça.
Ouais. Il y a des femmes qui réclament quelque chose d'automatique, hein, maintenant, je les ai entendues.
C'est dommage parce que tout est automatique maintenant. Moi, je trouve que non, c'est plein de charme. Quand on vient là, on a le temps quand même. C'est plus amusant.
Qu'est-ce que vous êtes venu acheter aujourd'hui au magasin?
Ici, du tissu d'or pour napper les tables de réveillon.
Et vous, madame?
De lit en patchwork.
4e étage, blanc. Linge de maison. Merci. Parle.
Ça râle, hein?
Oh, je ne fais pas attention, moi.
Mais sinon, dans votre vie, on a... Oui, mais sinon, dans votre vie privée, on arrive à vous faire mal, à vous blesser?
Les plus grandes blessures que j'ai eues, c'est des blessures sentimentales.
Combien de fois vous avez été blessée sentimentalement?
En 10 ans, une dizaine de fois, à peu près.
Ça fait une par an?
Ouais, une par an. En 10 ans à peu près, hein, et encore là je dis. Personne pour l'ascenseur premier.
Et je vous donne... Je vous fais ceci schématiquement. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est schématique ce que je vous fais.
Faites chaussée. Ça y est. Allez, faut sortir, là,
il faut sortir. Bon, alors on sort.
C'est connu, l'amour est un jeu comme un autre. Le gagnant est celui des deux qui n'aime pas autant que l'autre. C'est connu, et alors c'est connu, mais si c'est vrai, eh ben, Monsieur Paul, il doit pas être gagnant souvent, parce que c'est lui qui aime le plus. Ah oui, c'est le genre qui aime le plus. Et dans cette guerre amoureuse, il est souvent, souvent blessé. Mais un jour, on l'a dit, et on le sait, et on le croit tous, qui que nous soyons. La beauté des laits se voit sans délai. La princesse viendra.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que, en 10 ans, vous aviez eu 10 déceptions.
Oui. C'est mes plus gros, mes plus grosses déceptions. Vous comprenez? Mais je crois que, avec mes échecs, ça m'a donné un peu de fermeté. En amour. Mais je reste toujours sensible aux besoins d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Au besoin matériel, au besoin de prise en charge d'une femme, je resterai toujours sensible.
Oh là là, ça veut dire que les femmes vous ont exploité, ça, non? Qu'elles vous ont piqué votre argent.
Exactement, exactement. J'avais eu une aventure comme ça. J'avais passé une annonce sur une radio privée, une FM, quoi, qu'on appelle. Et bon, bah, j'avais eu un coup de téléphone d'une personne qui vivait avec quelqu'un, tout ça, mais qui avait eu des enfants placés à la DAS, tout ça. Puis, un beau jour, elle m'a retéléphoné, elle me dit, voilà, elle habitait dans la banlieue parisienne, banlieue sud. Elle m'a dit, bon, bah, je m'entends plus, ça va plus, j'ai dit, bon, bah, écoute, tu prends tes affaires, tu prends un taxi, tu viens chez moi. Le taxi, je te le paye. Elle est venue, elle est restée un mois avec moi, parce qu'au bout d'un mois, bon, bah, qu'on a vécu ensemble, je m'étais attaché. Du jour au lendemain, elle vient me présenter une personne qui, soi-disant, c'était son cousin. Moi, j'ai été naïf. Je l'ai cru. Ben, j'ai pas réagi. Vous savez, j'étais tellement amoureux d'elle. J'ai pas réagi. C'est les gens qui m'ont ouvert les yeux. Et après, c'est là que j'ai remis tout en question et que j'ai vu que franchement, il y avait quelque chose d'autre plus que son cousin. Vous comprenez? Sûrement un ami, un ami profond, un ami au flirt, quoi. Un flirt qu'il y avait entre eux.
Un amant, quoi, en fait.
Un amant, oui. Bon, ben, après, elle est partie, elle est venue un jour, elle est restée une journée sans donner de nouvelles, et puis après, elle est venue pour rechercher toutes ses affaires. Elle a peut-être pas été satisfaite sur mon sens de faire directement été avec elle. Il y avait peut-être des problèmes dans ce sens, je suppose aussi.
Mais dans quel sens?
Dans le sens... sentimentale, il y a peut-être eu des problèmes, peut-être j'étais trop attaché à elle, elle voulait peut-être plus de liberté. Et moi, c'était ma première que j'avais eue, sincèrement, j'étais trop collant en interne.
Ah, en fait, vous étiez tellement amoureux, et comme c'était la première fois que vous viviez avec une femme, c'est ça?
Oui. J'ai peut-être été trop direct, ou alors, une chose qu'elle m'a pris simplement pour la roue de secours, quoi, en un mot. Elle se sentait perdue, elle me prenait pour une roue de secours. Que moi, je voulais pas entendre du tout ceci. Ce qu'elle m'a pris surtout, c'est beaucoup de sentiments.
Ça remonte à quand?
Ça remonte à 85-86.
C'est-à-dire il y a 10 ans,
ouais,
quoi, en
près.
Gros.
Michel Sardou parle beaucoup aussi de chansons d'amour, la maladie d'amour. Je crois que j'ai beaucoup souffert de la maladie d'amour. L'amour. J'ai eu beaucoup de coups de foudre et c'est surtout des coups de foudre.
Vous êtes amoureux en ce moment?
Oui. 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 Oui.
Et je reste, disons, dans l'ombre, dans la mesure que j'attends que la personne arrive à bien réaliser ce que je ressens.
Et vous en avez parlé avec elle ?
Indirectement, oui. Directement, non.
Elle a quel âge ?
Une trentaine d'années. Je pense pas qu'il y ait un espoir réel. Je sais pas. Je sais qu'elle est fiancée. Mais vous savez, c'est le coup de foudre, hein. C'est le coup de foudre. On a tous un coup de foudre dans la vie. Moi, j'en ai eu plus d'un. Pourquoi ça, j'en ai eu plus d'un? Parce que aucun n'a voulu se confirmer. Mais si ça serait confirmé, je pense que ça aurait été très loin.
Premier étage.
C'est quand même un beau petit gars, quoi. Elle est tout seule, comme ça, c'est un peu triste, quoi.
Vous avez une famille, quoi ?
Moi, je suis marié, puis j'ai deux enfants. C'est pour ça que, elle a dit, moi, quand je peux...
Donc, c'est lui donner un petit peu de chaleur d'une famille qu'il n'a pas, hein ?
On essaye.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour lui ?
Trouver une âme sœur. Mais c'est difficile.
Je crois qu'il cherche.
Il cherche, mais enfin, c'est ce qu'il cherche. C'est vraiment la beauté sublime, tout. Donc, ça m'étonnerait qu'il trouve.
Il vise très haut. Il veut une femme parfaite, romantique, très belle.
Ah oui. Alors, on a beau lui expliquer qu'il faudrait qu'il regarde un peu plus bas, mais ça, il n'écoute pas. Mais ça, il en fait qu'à sa tête. Alors,
quel est votre prénom ?
Gérard.
Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez là ?
Oh, moi, ça fait 33 ans. Ah oui ?
Merci à tous, merci Monsieur Paul. C'était un reportage d'Anne Rioux, technique aujourd'hui Émilie Couette et Olivier Daligo, assistante Joël Level, le répondeur c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, musique Coy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.